jeudi 16 juin, au cinéma Les Lobbies, a eu lieu un ciné-débat à l'occasion de la projection de L'intérêt général et moi, un film qui questionne l'intérêt général des grands projets comme l'autoroute A65, la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse ou le fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bande annonce.
Et lorsqu'on a dit que ça passait sur mon jardin, je me suis dit, il faut bien que ça passe quelque part. J'étais persuadé que c'est quelque chose qui était pesé, qui était mesuré, qui profitait au plus grand nombre.
La motivation principale, essentielle des élus, quel qu'il soit, c'est bien l'intérêt général.
On a une demande très forte de TER, des transports en commun, et on nous répond LGV.
Une réunion à Paris à 8h du matin, vous êtes obligé de partir la veille.
Alors il faut choisir. 1 km de ligne à grande vitesse ou bien 2 km d'autoroute. Ou un collège, ou 20 crèches, ou 2 maisons de retraite.
La SNCF vient de battre le record de vitesse qu'elle détenait déjà.
Et le pont de Normandie, lui, pulvérise ce record puisqu'il franchit 856 mètres.
Ces grands projets d'infrastructure aujourd'hui, ils sont quand même de plus en plus faits sous la forme des partenariats publics-privés.
Et donc ils n'ont plus un intérêt général, ils font leur truc à moindre frais pour engranger le plus d'argent possible.
C'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui considèrent l'espace rural comme un espace vide, un espace à leur disposition.
C'est palpable, la perte des territoires.
En fait, c'est les gens qui habitent quelque part, qui se sentent concernés et qui se mettent en branle ensemble.
Je construis des alternatives, etc. Et je m'en sers pour faire pression sur les pouvoirs pour que peu à peu, ils soient contraints de changer leur politique.
C'est vous qui défendez l'intérêt général et ce sont les autres les égoïstes.
C'était la bande-annonce de L'intérêt général et moi, un film qui a été projeté jeudi 16 juin au Lobbies et qui a été suivi d'un débat animé par Martine Vinquel, membre du comité Notre-Dame-des-Landes 41, qui a rappelé l'historique du projet de Notre-Dame-des-Landes et du combat des opposants, ainsi que le contexte de naissance du comité 41. Cette soirée a également été l'occasion de parler d'un projet certes moins ambitieux, mais bien plus proche, un projet de construction d'un circuit de moto qui fait débat à Meur. Place au débat.
Quelle réaction quand on voit un film comme ça, à travers tous ces exemples, enfin ces 3 exemples principaux?
Ça fait peur, ça met en colère. Hein.
Ouais, pourquoi ça met en colère?
Parce qu'on a l'impression qu'on se fait quand même bien berner et qu'on a peu de moyens pour réagir, sinon à un moment, il faut bouger. Quoi. Je ne sais pas comment vous réagissez dans la salle. Je pense qu'on a aussi, au niveau du comité, on a aussi, on se fait un peu le relais de choses qui se passent localement. Et donc, on a proposé à des gens de Meer de venir parler d'un projet un peu du même type. Enfin, au niveau envergure, c'est peut-être un peu moins grand, mais c'est local. Et c'est un peu le même processus qui se met en route.
C'est intéressant de voir que ce qui se passe là, ça ne se passe pas que dans le sud-ouest ou en Loire-Atlantique, mais qu'il y a des cas similaires un peu partout.
Bonsoir. Alors, bon, ça, le film, c'était très intéressant. Mais tout ça pour dire que dans notre région, il y a ce genre de projet existe aussi, bon, en beaucoup moins grand, mais c'est le même principe. Quoi. Je veux dire, nous, on habite un petit village là entre Saint-Aignan et Celles-sur-Cher qui s'appelle Meur. Bon, peu de gens connaissent ce village, il y a 300 habitants. Et. Notre maire, qui est par ailleurs plutôt un bon maire, a envie de finir sa carrière sur quelque chose d'un peu extraordinaire. Donc, la communauté de communes de Saint-Aignan possédait à peu près 100 hectares pour faire une zone industrielle. Bon, comme vous le savez, en ce moment... l'économie marche pas très bien, donc la zone industrielle, c'est 100 hectares de friche, quoi, en gros. Donc, ils ont acheté ça fort cher, ils ont acheté ça 10 000 euros l'hectare, c'est-à-dire 3 fois le prix des terres agricoles, dans 3 ou 4 fois même, dans notre région, et ils savent plus quoi en faire. Alors, n'importe quel projet... les intéresse. Alors, il y a un gars que peut-être certains connaissent qui s'appelle Jean-Marc Delétang, qui est un ancien pilote moto qui habite sur Contres. Et lui, maintenant, il est plutôt à la retraite. Il ne fait plus de courses. Mais il a un grand projet en tête depuis plusieurs années, c'est-à-dire de créer un circuit moto. Donc, des motos pour faire de la compétition. Hein. C'est donc des motos qui font évidemment beaucoup de bruit. Et puis... qui servent, enfin ça sert pas à grand chose à part l'enrichir lui peut-être personnellement. Donc il se propose d'acheter la moitié, c'est-à-dire une quarantaine d'hectares. Il y a quand même une partie des terres qui sont cultivées par quelques agriculteurs, donc ça tout le monde s'en fout. Des agriculteurs qui sont en pleine activité. Et lui, il veut nous faire un circuit où pendant 300 jours par an, il y aura 30 motos qui pourront circuler, des gens qui viendront pour s'amuser, quoi. Donc, alors il nous dit qu'il va limiter le bruit à 83 décibels, sauf que, bon, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais lui non plus certainement, parce que quand vous mettez 30 motos à 83 décibels, ça fait, en fin de compte, à la fin, 110 décibels. Donc 110 décibels, c'est pratiquement un Airbus qui décolle. Donc ça, toute la journée, pendant 300 jours par an. Voilà ce qu'il nous propose. Alors forcément, nous, on a un hameau qui est à 400 mètres là, de son futur circuit. Alors, on n'est pas d'accord, quoi. On n'est pas d'accord parce que ça va nous pourrir la vie. Ça va déprécier toutes nos maisons. Et puis, donc, il ne nous propose absolument rien, pas aucun dédommagement, je veux dire, à part peut-être foutre le camp. Mais bon, pour foutre le camp, il faudrait qu'on puisse vendre nos maisons, qui sont maintenant invendables. Donc, il s'est mis le président de la communauté de communes dans la poche, qui est le maire de Contres, qui est quelqu'un d'assez dynamique sur Contres. Mais lui, il voudrait bien se débarrasser de ses terrains. Et donc, nous, on a monté une association. On est déjà 150 dans l'association. Et on essaye de s'opposer à ce circuit moto. Donc, ça fait un an qu'on y travaille. On va faire notre assemblée générale là, au mois de juillet. Je pense qu'on va être obligé de prendre un avocat. Parce que... on sait que par derrière la communauté de communes, elle essaye. Il y a encore quelques propriétaires, il y a 7-8 propriétaires, des petits propriétaires qui sont enclavés là, dans ce terrain, qui ne sont pas d'accord pour vendre, mais on leur propose des grosses sommes d'argent pour acheter leur terrain. L'agriculteur qui est en place, forcément, il ne peut pas acheter des terrains à 10 000 euros l'hectare pour faire des poireaux ou des fraises, parce que c'est ce qu'il fait. Je veux dire, parce que s'il les achète à ce prix-là, il est sûr de se planter. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est éventuellement pouvoir acheter ces terres avec lui. Mais comment faire quand la SAFER, c'est la SAFER elle-même qui va proposer aux derniers propriétaires des prix aussi astronomiques pour essayer de récupérer ces terres pour les revendre au gars qui veut faire ce circuit, alors que la SAFER, au départ, c'est un organisme qui a été créé pour les agriculteurs, mais bon, ça, maintenant, c'est plus une agence immobilière qu'autre chose.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la SAFER? Je ne connais pas.
Alors, la SAFER, c'est Société d'aménagement foncier... d'économie rurale, voilà. Donc c'est un organisme qui est censé, quand vous avez une ferme qui est à vendre, elle est là, si vous voulez, pour réguler un peu le marché, quoi, pour donner la priorité à des jeunes qui vont s'installer, à des agriculteurs pour s'agrandir, Mais maintenant, la SAFER, comme elle touche un pourcentage sur la vente de ces terres, plus les terres sont vendues chères et plus la SAFER elle touche. Quoi. Alors, maintenant, on s'en fout un peu de vendre un agriculteur ou un gars qui fait un circuit moto. Autant vendre au gars qui fait le circuit moto parce que tout le monde y gagne, quoi. Donc nous ce qu'on va avoir besoin, bon, on est déjà 150 adhérents, mais c'est pas assez, si vous voulez, pour s'y opposer. Donc tous ceux qui seront contre, qui sont intéressés pour se battre contre ce projet, ils peuvent nous contacter, ils seront les bienvenus, parce qu'un jour ou l'autre, je pense que s'ils continuent dans ce sens-là, il va falloir s'y opposer plus fermement, c'est-à-dire occuper le terrain, peut-être installer des jeunes agriculteurs, et puis peut-être à la fin se bastonner contre les flics comme on faut faire à chaque fois, quoi. Je veux dire, plus on sera, mieux les coûts seront répartis, quoi. C'est pas, je veux dire. Donc c'est surtout à nous qu'on pense quand je dis ça, quoi. Alors, ils nous proposent de faire marcher l'économie locale. Ils proposent de faire un hôtel sur le terrain. Bon, je veux dire, alors déjà, les hôtels du coin, ils n'en profiteront pas. Ils proposent de faire un camping, parce que les motards, ils aiment bien camper, parce qu'ils ne sont pas tous richissimes non plus. Et donc déjà, les campings locaux terminés. Après, ils proposent de faire à manger, quoi. Je veux dire, des restaurants ou des choses comme ça. Donc les restaurants du coin, niette. Donc tout comme ça, quoi. Petit à petit, à chaque réunion, on apprend des choses nouvelles. C'est-à-dire que dans le grand circuit, là, qui fait quand même 40 hectares, ils ont rajouté deux petits circuits. Alors, un circuit de mini-moto, ça doit être pour les maternelles, je pense. Et puis, un circuit de dirt track. Alors, je sais pas, pour ceux qui connaissent la moto, le dirt track, c'est une moto qui n'a pas de frein, qui tourne à l'éthanol, je crois, c'est même pas de l'essence qu'on met dedans. Ça fait un bruit infernal, et on tourne toujours dans le même sens. C'est un circuit sur la Terre, quoi. Alors, ça rajouté aux 110 décibels, alors là, je ne sais même plus combien ça fait, là. Je veux dire, c'est... Mais enfin, il faut foutre le camp ou se battre comme des chiens. Nous on n'a pas d'autre alternative. Hein. Je veux dire, on ne savait pas quoi foutre pendant notre retraite, mais je pense qu'on va être bien occupé, quoi. Parce que ça concerne 4 villages. Hein. Parce que ça concerne Chémery, ça concerne Billy et Châtillon-sur-Cher. Hein. Je veux dire, c'est vraiment... c'est sur notre commune. Mais ça concerne trois autres communes. Donc ça va devenir invivable dans notre quartier, quoi, je veux dire. Et puis, je reviens sur l'intérêt général. Alors, nous, ce projet, ça n'a aucun intérêt général, hein, parce que c'est un projet privé. Mais le maire nous dit que maintenant, il y a une notion d'intérêt économique pour une région. Je veux dire... Alors, je sais pas si c'est officiel, ce genre de choses, mais comme ça n'a aucun intérêt général, ils nous disent que ça a un intérêt économique. Ils appellent ça comme ça. Alors, moi, je pensais qu'il faudrait qu'on fasse un GFA ou quelque chose comme ça, un groupement foncier agricole, comme les gars du Larzac, ils avaient fait, c'est-à-dire que... à nous tous, là, on achète, je sais pas, 10 mètres carrés chacun, quoi. Je veux dire, ça représente pas une grosse somme par personne. Mais après, à chaque fois, il faut qu'ils viennent négocier avec chaque propriétaire, quoi. Non. Donc, ça devient l'enfer, quoi. Pour eux, c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on mette en place. Mais comment il faut qu'on soit conseillé, quoi. Je veux dire, parce que on n'est pas des spécialistes dans tout, quoi.
Trattorino e lione in Val di Susa, c'è militarizzazione e prepotenza. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è alta pressione e resistenza. Contro la demolizione dell'ambiente montano e la grave corruzione dello Stato, opera strategica o buco dell'assurdità, la TAV va sabotata, non si farà. Tra Torino e Lione c'è già una linea e nessuna vera ragione per costruirne un'altra. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è molta speculazione per poca libertà. Con 30 miliardi di euro proteggiamo la montagna e lasciamo l'amianto in pace dove si trova. Opera strategica o buco dell'assurdità, la TAV va sabotata, non si farà. Non si farà. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è la disinformazione della embedded stampa. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, si mente alla televisione per screditare la lotta. Per screditare la lotta. Ma dal suo elicottero, questa politica che governa con il gas lacrimogeno non ha più legittimità. Opera strategica o buco dell'assurdità, la TAV va sabotata, non si farà. Non si farà. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è una giusta ribellione da vent'anni già contro l'autorità nociva e imposta, la TAV va sabotata, non si farà, non si farà.
La TAV non si farà, la Parisienne libérée chante le grand projet inutile Lyon-Turin. Et nous, on est toujours au Lobbies pour le débat qui a suivi la projection du film L'intérêt général et moi.
Je voudrais répondre à la petite dame qui a dit tout à l'heure qu'elle était pessimiste en voyant le film. C'est tout l'inverse qu'il faut être. C'est-à-dire qu'en se battant, on arrive à quelque chose. Et il faut se battre à fond. Et il faut se battre entre autres pour changer de système républicain. Il faut passer à la 6e République qui fait que les élus auront à rendre des comptes dans l'immédiat aux décisions qu'ils prennent. S'ils se font élire sur des programmes et qu'ils ne tiennent pas leurs programmes, ils démissionnent. Ils ne finissent pas leur mandat. Et c'est à ce combat-là qu'il faut arriver. C'est-à-dire que les élus sont faits pour représenter les intérêts de tout le monde, à tous les niveaux. Et à partir du moment où ils s'en éloignent, ils n'ont plus à représenter qui que ce soit. On est en train actuellement de tenir des discours comme quoi il faut que dans les communes, les décisions soient prises par des techniciens, par des gens qui savent, et débarrasser les élus du souci des enquêtes, etc. C'est-à-dire qu'on veut professionnaliser les décisions qui sont prises normalement par des élus. On veut remplacer ça par des techniciens qui viennent au nom de Vinci, etc., qui savent, comme on l'a vu tout à l'heure, mieux que les autres, paraît-il. Donc il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste et puis continuer à enfoncer le pied sur la pédale.
Je ne comprends pas ce que vous dites, moi. Il faut quand même que les élus s'entourent de gens qui ont des compétences particulières.
Eh bien justement, un élu, il doit avoir le droit de s'entourer de gens compétents qui n'appartiennent pas forcément à la gente des Vinci ou autres.
Ou alors il faut un référendum. Alors le référendum, c'est quelque chose qui aura lieu le 26 juin. À Nantes, là on revient sur Nantes, enfin en Loire-Atlantique pour Notre-Dame-des-Landes. Juste avant que Martine vous reprenne la parole, j'étais à Nantes pour des raisons professionnelles pendant 2 jours, et j'ai parlé à quelqu'un donc, de ce référendum, et qui m'a dit, ah, de toute façon le référendum en Loire-Atlantique, si c'est non, ça sera peut-être oui au final, mais si c'est oui, c'est pas sûr que ça se fasse. Donc j'ai l'impression que est-ce qu'il sert à quelque chose à votre avis, ce référendum-là?
Alors, par rapport au référendum, on est un petit peu, un peu figé. Enfin, on est réticent, on est un peu figé parce qu'on ne sait plus trop quoi faire. En même temps, on est très réticent sur le principe même du référendum. Comme tu dis, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas forcément aboutir à une vraie décision. Et puis, c'est très controversé, parce qu'apparemment, enfin, il y a une décision de faire ça en Loire-Atlantique, alors qu'on aurait pu agrandir les choses. On voit bien que c'est débattu. Qui est concerné par un projet de cet ordre-là? Donc, la question qui est posée est remise en cause. Apparemment, il y a des débordements, il y a des façons de faire localement qui sont un petit peu contestables. On le voit aussi quand vous parlez des élus. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. En même temps, on voit quand même que les compromissions sont importantes quand même entre le monde politique et le monde économique. Donc, est-ce qu'on peut espérer que le monde politique, c'est nous qui devons le faire exister, mais est-ce qu'on peut espérer que ce monde politique reprenne en effet son rôle et sa mission ?
Je voudrais d'abord dire sur la question du référendum, vous pouvez aller voir sur Internet le site de la commission officielle. Enfin, vous pouvez aller le voir, vous serez étonné par la manière dont les arguments sont défendus d'un côté et de l'autre. C'est exactement ce qu'on voit dans le film quand il s'agit de questions de spécialistes qui devraient être prises en compte par les gens eux-mêmes. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point que je pense important pour rebondir sur le débat tout à l'heure, c'est la question, c'est pas la question des élus tels qu'ils sont à l'heure actuelle ou tels qu'ils pourraient être dans une 6e République, qu'on peut espérer ou pas espérer, ça c'est une autre question, mais c'est la question de la démocratie telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle. La démocratie telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle est une démocratie représentative, dans laquelle, certes, les élus pourraient être responsables de ce qu'ils disent, mais malgré tout, ces élus, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le débat du peuple. Au départ, c'est la question qu'on voit dans le film très bien, c'est les gens qui discutent entre eux et qui deviennent compétents, à l'aide ou d'experts, certes, peut-être, mais qui, eux, tous, globalement, deviennent compétents et peuvent présenter des solutions. C'est ça le plus important de l'affaire. Le plus important, c'est de faire commun entre nous. C'est de pouvoir, faisant commun entre nous, savoir ce que nous voulons comme monde. Et ce qui me semble important, moi, par exemple, par rapport à Notre-Dame-des-Landes, c'est cette idée que le monde que nous voulons n'est pas leur monde. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça le problème qu'il faut. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à l'exprimer ? Ben parce que tout simplement, on n'est pas ensemble pour en parler. Parce qu'on n'est pas ensemble pour le défendre. C'est ça notre problème à l'heure actuelle. C'est de croire qu'un autre monde est possible et que nous, on peut, parce qu'on se voit entre nous, parce qu'on en parle entre nous, parce qu'on fait des choses entre nous, être capable de changer les choses. Moi, je crois que c'est ça le fond du problème.
Ça montre que c'est important de se rencontrer, d'être en tout cas ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose autour d'une solidarité, quelque chose autour d'une mobilisation qui fait quand même force. Je pense que c'est important, c'est pour ça qu'on mobilise aussi ici, alors que ça se passe à Nantes. Mais je pense que c'est important de montrer que ça nous touche aussi. Et puis il faut essayer de pouvoir agir dès qu'il y a des projets locaux qui se montent. On parle de déplacement. Je pense qu'il y a parfois des débats à Blois aussi sur est-ce qu'il faut le TGV, est-ce qu'il ne faut pas le TGV. Enfin, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument se mobiliser aussi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ?
Oui, bonsoir. La difficulté de démocratie qui a été mise en évidence dans ce film a été bien dite à un moment précis. Lorsqu'il s'est agi de partenariat public-privé, il a été dit nous sommes dans une quasi-mafia. Et effectivement, il est très difficile d'avoir une vraie démocratie lorsque l'on est entouré de cette quasi-mafia, même au niveau gouvernemental, qui peut être même partie prenante de cette quasi-mafia. Donc effectivement, la lutte va être difficile, mais il ne faut pas désespérer.
Et puis dans le film, il y a aussi la manière de faire aussi. C'est quand on voit les exploitants au début du film par rapport à l'histoire de l'autoroute, ils disent au fond, dans mes souvenirs, bon, ben à la base, un truc comme ça, ça nous explique c'est l'intérêt général, ben comme ça, bon, on se dirait on n'est pas contre, sauf qu'après, c'est dans la manière dont c'est fait. Notamment le témoignage où il y a la maire du village qui avait des experts sur le terrain, un terrain privé, un terrain agricole, et que la personne en question dit ah ben, j'y suis allé, j'ai vu des gens sur mon terrain, et puis j'étais en train de tester. Et ça, c'est quand même des, par rapport au terme que vous avez employé, c'est des méthodes qui sont un peu sous-marines, hein, pour rester poli.
Il y a aussi la façon dont les médias peuvent relater les choses aussi. Enfin, on a un discours, ce qui était expliqué par la personne de Mediapart, c'est faut aller, enfin même au niveau de l'information, faut aller vite, faut trouver des arguments parce que les gens, tout va vite et du coup, comment on peut avoir des débats de fond par rapport à ces questions-là? Et parce que partout, en effet, quand on entend les gens, on dit oui, mais il faut avancer quand même, il y a le progrès, il y a la concurrence, il y a ce... enfin voilà, on est dans quelque chose où on a quand même un discours fort qui va dans ce sens-là, et comment est-ce qu'on peut amener à réfléchir autrement? Et je pense qu'en effet que c'est peut-être des endroits, enfin on en discute au niveau du comité, on en discute, il faut peut-être avoir des endroits où on peut parler de choses de fond, c'est des histoires de valeurs aussi, de choix de société.
Oui, c'est vrai. Il faut aller vite, puisque la députée des Landes qui va en réunion à Paris ne trouve pas normal de passer une journée.
J'ai pas compris. C'est quoi, en fait, la députée des Landes qui passe une seule journée?
Ben, tu sais, la députée qui dit, mais non, il faut, pour aller à Paris, il faut que j'ai un train à grande vitesse, parce que autrement, je dois y aller la veille,
dans le
je
film,
dois y passer du temps. Quoi, voilà.
Désolé, je reprends encore une fois la parole. Ça a été très bien dans le film. L'intérêt général de qui? Parce que quand on sait que le TGV s'est construit, on était tout émerveillé devant, et que actuellement, quand on constate les lignes de TER, les gares qui sont fermées, il y a que quelques personnes. C'est très bien expliqué dans le film, ça, c'est génial. Il y a quelques personnes qui profitent du TGV. Il y en a très très peu qui, pour les déplacements quotidiens, en profitent. Par contre, maintenant, les gares sont fermées, les lignes sont délabrées, les investissements qui ont été faits pour le TGV, ils n'ont pas été reportés sur les lignes qui ne sont pas entretenues. Et ça, c'est très grave. L'intérêt général de qui? D'une minorité qui soi-disant fait l'économie, ou de tout le monde qui la vit et qui la subit, et qui en fait fait le travail de base. Ça non plus, c'est pas trop normal. La députée, elle voit son intérêt pour aller à Paris, mais le gars qui est obligé de prendre sa voiture pour aller au patelin d'à côté parce que la ligne a été fermée, la ligne du chemin de fer a été fermée, bah lui, il est marron.
Et puis c'est surtout dans le film qu'on voit la disproportion des coûts. Alors je me souviens plus, c'est un kilomètre de ligne grande vitesse est égal à une école, enfin, je sais plus exactement, mais c'était juste assez hallucinant. Et oui, là, pour le coup, la question d'intérêt général se pose, alors que vu la situation économique des services publics dans certains, on se dit bon d'accord, donc il y a des priorités qu'on comprend pas spécialement tout le temps, quoi.
Oui, quand on se dit que localement il faudrait peut-être se regrouper pour se déplacer et créer plutôt du déplacement local, c'est sûr que la ligne à grande vitesse.
On avait aussi le projet, vous savez, d'une ouverture de l'autoroute. Une deuxième desserte de l'autoroute sur Blois, en fait. C'était aussi un projet, c'est un projet qui est un peu là, qui ressurgit de temps en temps. Il était dans l'actualité dernièrement. S'il y a quelqu'un qui a un peu d'informations sur ce projet-là.
Entre Blois et Salumin, sauf erreur, sur 200 ou 300 hectares. Et en fait, comme ils le disent dans le film, c'est pour les usines vont se déplacer, tout simplement. Alors, moi, je voudrais dire une petite anecdote. Quand j'ai pris mon ticket, vous m'avez dit pourquoi vous n'avez pas dit le « et moi ». Ouais. Non, c'était pas. Ouais, mais disons que j'ai été confronté à Gaz de France dans les années 2000. Ils ont installé un pipeline chez moi. Oui, je suis agriculteur à Chambon. Et ils ont. Alors, c'est vrai que moi, j'ai trouvé des gens chez moi pour commencer à faire des forages. Je peux vous dire qu'ils ont été virés manu militari. Ça, c'était. Ce qui a été dommage, c'est qu'on a été, tous les agriculteurs, c'était vraiment bien entendu pour avoir un cahier des charges tenant compte de l'intérêt général, quoi. Mais finalement, ils ont réussi à faire fâcher tout le monde parce que ils payaient plus un tel. Et moi, j'ai été assez triste parce que moi, j'ai tenu jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de refaire tous les travaux sur 2 hectares, c'est-à-dire remuer 5000 mètres cubes de terre parce qu'ils avaient vraiment fait les pierres que j'avais, enfin les rochers que j'avais à 4 mètres de profondeur étaient en surface. Et le et moi, j'en suis pas fier. Ça a duré 2 ans quand même. J'ai passé 2 ans. Ils venaient jour et nuit. Ils travaillaient 24 heures sur 24. C'était une entreprise hollandaise. La société D-Nice, les types faisaient 18-20 heures de pelleteuse. C'est vraiment du délire.
Une autre réaction?
Alors, on peut vous dire aussi que c'est le 28 qu'on fait un pique-nique à la Creusie en espérant que le ciel soit avec nous. Voilà, le comité Notre-Dame-des-Landes qui peut être une occasion de venir partager un moment avec nous et de vous aussi amener votre énergie pour à partir de 19 votre panier à partir de 19h, on a mis 18h, on s'est dit que c'était peut-être un peu tôt, 19h, voilà, qu'on puisse partager un moment et puis discuter, enfin venez. On a besoin d'énergie nouvelle au sens et durable. Donc je pense que c'est important, ça ne vous engage à rien, sinon à venir partager un moment et échanger. On pourra aussi discuter des résultats du référendum, des conséquences du référendum, on ne saura peut-être pas trop, mais oui.
Et donc je suppose que si des gens ne sont pas inscrits, vous devez avoir des newsletters, des bases d'adresses où on peut être tenu au courant.
Alors nous, on a une... Pour consulter nos activités, c'est sur le site... NDDL, car alors vous pouvez aller voir le site de la ZAD en général, mais autrement, si vous tapez NDDL 41, vous arrivez sur le site du comité et vous pouvez voir tout ce qu'on peut proposer. Il y a des débats, il y a aussi les informations sur ce qu'on organise localement et éventuellement aussi, parfois, on organise des déplacements sur Nantes. Voilà, donc si vous venez sur le site, vous aurez des informations. Sur ce qui se passe localement et les relais qu'on peut faire par rapport à ce qui se passe au niveau de Nantes.
En tout cas, Martine, merci beaucoup de nous avoir sollicité quand même. Donc voilà, donc merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu.
Et c'est la fin du débat, un débat que vous pourrez réécouter sur notre site internet www.studiozef.fr. Je vous rappelle que le comité Notre-Dame-des-Landes 41 organise un pique-nique au port de la Creusille le mardi 28 juin. Vous êtes tous conviés. Et je vous invite également à aimer la page Facebook de l'Association de défense des riverains du circuit de Meher, car ils ont besoin de notre soutien. On se quitte en musique avec Tenir Bon, un morceau qui nous vient tout droit de l'atelier d'écriture de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. A bientôt sur Studio Zef.
Quand dans ma tête, c'est la tienne qui apparaît. Qu'en est-il de mes sens qui ne reviennent pas de ton attrait? Qu'on sait ton excellence et ses moustilles à souhait. Converge vers une transe qui me propulse de plein fouet. Je dois atterrir, la charge est trop lourde. L'opulence du désir a distillé en une gourde. Alors à le lever me semble une énorme bourde. Alors que son éclat scintille d'étincelle le sourd.
Ça fait déjà quelques piges que j'ai décidé de tourner le dos à cet état bien trop rigide qui nous a matraqué le cerveau. Celui qui m'a faussement fait croire que je pouvais être celui que je voulais tant que je rentrais dans ses cases et accepter son chemin sans penser. Mais par chance, j'ai trouvé des gens qui m'ont répondu calmement d'ouvrir les yeux beaucoup plus grands et constater ce que c'est le présent. Et ouais, ça fait tellement mal quand tu commences à dire non, quand tu te retrouves avec toi-même te demandant si tu tiendras bon.
Je tiens bon malgré le manque de pécule, envie que ça brûle, à quoi on carbure, à part la hargne et que ça dure, à croire que la pluie use l'eau sature, tenir bon malgré l'allure, contrôler la vitesse ainsi que ça plume, dorénavant j'exécute le temps sans stress, même si l'époque est rude, lève la tête et trace.
Tenir bon face au vent, face aux agressions, à l'attaque, les tactiques, les manipulations. Tenir bon face à nos propres démons, dépasser nos visions étriquées, trinquer au saccage de la nation. Tenir bon face à ceux qui, à coups de fric, à coups de bâton, te brisent les genoux, te jettent en prison. Tenir bon quand la peur nous leurre, les passions se meurent, et quand la folie s'invite dans nos caissons. Tenir bon face aux égos gonflés, face dégonflés, face à ceux qui t'écrasent pour se sentir exister. Démonter la carrure, les caricatures de ces soi-disant gros durs qui me les cassent à l'usure. Tenir bon quand on nous prend pour des cons, faut pas déconner, on est bien plus que des pions. Rester des morpions qui grattent, qui cassent tout, qui débarquent en masse, se servent et renversent tout.
Tenir bon malgré les échecs, encaisser les chocs, accepter les chutes et se relever de suite, ni fuite ni retraite. Ne pas se laisser abattre, venue la première tempête. Imputrescibilité, charpente de qualité, on saura se faire fondre quand le vent s'agite, quand tout le monde s'abrite, faire front. Quand tout s'effondre autour, prendre appui pour mieux pousser, bras dessus, dessous, faire ensemble nous sous.
Le mort à la terre quand tu déblatères des débilités, mais dis-leur que tes mots ne sont des leurs. T'es pas grande gueule, ma gueule, juste mon goal. Je sais tenir bon face aux cons, aux coups durs, grâce à mes passions et aux poteaux. Mes passions, c'était perso, une parenthèse qui m'a parasité. Et tant que je serai pas paralysé, bah je vais me relever, faudra t'y accoutumer. À coup sûr, consommer, se consumer. Je sais pas comment c'est possible, mais on tient de choc face à l'échec. La face cachée de l'échelle vers la réussite. On ressuscite, résiste et c'est reparti.
Tenir bon en 8 mesures, sortir la tête du sac, tenir le cap, même quand ça souffle dur. Garder la niaque, même si parfois je suis pas sévère, que ça me saoule, ça pue le stress et le roussi. Suffit de regarder en arrière et de voir que j'ai pas défléchi. On n'a pas fléchi, les grains qu'on sème dru, certains en saisiront le sens. D'autres les jetteront au vent, ça n'empêche pas l'alphée. Même si parfois je suis pas sévère, je veux pas céder, mais bien sévir avec les excédés.
En face à face, grisé, efficace, le vent s'élève, porteur de la menace. Souffle sur nos racines, puis se hisse vers la cime. Perdure, dure, vivre jusqu'à la sature. C'est tout, c'est sous, s'écrit dans un murmure. Tiens bon frère, c'est dans le fracas de l'orage que la rage broiera tous ses rouages.